Bene.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3 et l'émission L'heure flamande préparée par Michel et Marie-Jo.
Et aujourd'hui, cette émission, nous allons partir hors de frontières de notre Flandre. Nous allons vous amener à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, à savoir en Afrique du Sud. Alors pourquoi me diriez-vous qu'on vous emmène là-bas en Afrique du Sud? Eh bien, c'est tout simplement qu'à travers l'histoire de cette Afrique du Sud, c'est aussi une grande partie de notre histoire de Flandre que nous allons découvrir. Nous allons donc évoquer ici, bien sûr, les Afrikaners et leur langue, l'Afrikaans. Mais avant de poursuivre, je tiens tout d'abord à remercier particulièrement mes deux interlocuteurs qui nous ont permis, à Marie-Jo et à moi-même, de préparer cette émission. Ces deux personnes ont vécu là-bas, ils en gardent encore aujourd'hui bien agréable souvenir. Et ils connaissent bien le terrain, c'est pour ça que ce sont des témoins précieux qui m'ont aidé donc à construire cette émission. Je tiens donc à remercier en particulier donc Léo Kamerling de Bruxelles et Karen Appelmans de Gand. Merci pour leur contribution.
Mijn sari, mijn reis is zo ver van mijn hart, maar ik hoop om haar weer te zien. Zij heeft in die wijk van die mooie rivier gewoond, nog voor die oorlog het begin. O, breng mij terug naar die oude Transvaal, daar waar mijn sari woont. In die millis, bij die groen doringboom, daar woont mijn sari Marijs. Daaronder in die millis, bij die groen doringboom, daar woont mijn sari Marijs. Ik was zo bang dat die kakkies mij zou vang en ver op die zee wegstuur. Toen vlug ik naar die kant van die Uppingtonse zand, daaronder langs die groot rivier. O, breng mij terug naar die oud Transvaal, daar waar mijn sari woont. Daaronder in die millis, bij die groen doringboom, daar woont mijn sari Marijs. Daaronder in die millis, bij die groen doringboom, daar woont mijn sari Marijs. Die kakjes is moest net zoals een krokodillenpest, hul sleep jou altijd water toe. Hul gooi jou op een skip, weer een lange, lange trip, die Josie weet waar naartoe. O, breng mij terug naar die oud Transvaal, daar waar mijn sari woont. die groen door ik woon, daar woon mijn Sarimarijn. Daaronder in die mil is bij die groen door ik woon, daar woon mijn Sarimarijn. Verlossing had gekomen en die huis toegaan was daar. Terug naar die Oud-Branspaal. Mijn lievelingspersoon zal zeker ook daar wees om mij met een kus te beloon. O, breng mij terug naar die Oud-Branspaal, daar waar mijn Sari woont. Bij die groendoringboom, daar woont mijn Sarimaret. Daaronder in die millis, bij die groendoringboom, daar woont mijn Sarimaret. O, breng mij terug naar die Oud-Ranspaal, daar waar mijn Sari woont. Daaronder in die millis, bij die groendoringboom, daar woont mijn Sarimares. Daaronder in die millis, bij die groendoringboom, daar woont mijn Sarimares.
Jeff Elbers, vous interprétez Sarimares. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et vous avez pu constater que le chant, bien sûr, c'est un chant chanté en afrikaans. Et donc, c'est une langue qui est très proche donc, du néerlandais. C'est une langue qui est utilisée donc, par la communauté afrikaner. Elle est utilisée par plus de 8 millions de personnes. C'est une langue donc, très proche du néerlandais. Et comme souligne notre correspondant Léo Kamerlin, on peut comparer un petit peu ce qu'est le québécois par rapport au français, l'américain par rapport à l'anglais. Et donc, en effet, quand on observe l'écriture de cette langue, on peut remarquer que l'orthographe est bien celle de ce que nous appelons l'Oude Nederlands, le vieux néerlandais, ce néerlandais tel qu'il s'écrivait surtout au XVIIIe siècle. Alors, contrairement à ce que l'on peut penser et ce qui est véhiculé par certains médias, eh bien, l'afrikaans, il n'est pas parlé que par les Blancs, mais aussi par les Métis et aussi par les Noirs. Et donc, c'est une communauté qui parle donc cette langue qui fait partie d'une des sept langues officielles de l'État qu'on nomme aujourd'hui l'État arc-en-ciel. L'afrikaans, comme de nombreuses langues, eh bien, bien sûr, sont aussi menacés par l'anglais. On peut s'en apercevoir aussi ici en France, hein, puisqu'on a de plus en plus une espèce de bâtardisation de la langue. Et l'afrikaans, naturellement, n'échappe pas à cette menace. Un exemple, par exemple, ici, avec la pandémie actuelle, les médias utilisent, par exemple, plus facilement, au lieu du mot « foyer », de « contamination », de « cluster ». Donc, pourquoi pas utiliser le mot « foyer ». Et donc l'afrikaans, bien sûr, subit lui aussi eh bien, cette agression linguistique et menacé petit à petit, bien sûr, un risque de disparition. Alors pourquoi parle-t-on en Afrique du Sud cette langue issue du néerlandais? Eh bien, il faut bien sûr remonter un peu dans le temps.
Ik praat nog steeds mijn taal, die vlammen brandt zo koud. Want om mijn kampvuur wil ik die oude dingen herhaal. Zij mij voel je nou, zoals ons taal nou bouw. Dat ik trots kan gaan waar Afrikanen staan. Want jij praat nog steeds mijn taal. Want jij praat nog steeds
maita. Ja jej prav no snis maita. En zonder jou voel. Koude vis, se kolle brand nooit uit nie. En die donker voel ons elke raak ons aan. Want my hart is hier, hier waar my mense staan. Saam met elke hart en ziel sal ek opstaan. Jy praat nog steeds my taal. Want jy praat nog steeds my taal. Ja, jy praat nog steeds my taal. En zonder jou voel ek verdwaal. Want jy praat nog steeds my taal. Want jy praat nog steeds my taal. Ja, jy praat nog steeds my taal. En zonder jou voel ek verdwaal. Want jy praat nog steeds my taal. Want jy praat nog steeds my taal. Ja, jy praat nog steeds my taal. En zonder jou voel ek verdwaal. Want jy praat nog steeds my taal.
Bob Van Klerk, jij praat nog steeds mijn taal. Tu parles encore ma langue. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande.
Donc, eh bien, pour comprendre un peu l'existence donc des Afrikaners et de cette langue afrikaans, eh bien, il faut remonter bien sûr un petit peu en arrière. Et en effet, les Pays-Bas qui comprennent alors non seulement les Pays-Bas d'aujourd'hui, mais aussi ce qui est l'actuelle Belgique ainsi que la Flandre française, eh bien, est secoué par une révolte en particulier qui est animée par l'arrivée de la religion réformée, le calvinisme et la religion luthérienne. Évidemment, le roi Philippe II d'Espagne, puisque nous dépendons à l'époque donc de l'Espagne, l'Espagne très catholique, n'admet pas du tout naturellement l'arrivée de cette nouvelle religion. Pendant plusieurs années, pendant 80 ans, les Pays-Bas vont être secoués par cette guerre que l'on connaît aussi sous le nom de révolte des gueux. Évidemment, ça se passe pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Les gueux, naturellement, se soulèvent et on peut assister, par exemple, en particulier à Stenvoort, d'où partira d'ailleurs un peu tous ces événements en 1566. Eh bien, on pénètre dans les églises, on détruit les statues, toute représentation des saints, même du Christ, sont cassées. Évidemment, ça choque profondément les autorités espagnoles de l'époque. Et la répression, elle est terrible. Une ville comme Anscot, par exemple, qui comptait plus de 10 000 habitants, eh bien, va tomber à 3 000. Naturellement, beaucoup vont périr sur des bûchers, mais beaucoup. Les plus nombreux vont partir et partir vers où ? Vers le nord. Car les provinces unies eh bien, vont gagner leur indépendance après ces nombreuses années de conflits. grâce au traité signé en 1648. L'Espagne donc reconnaît l'indépendance des provinces unies du Nord et choisit d'ailleurs comme dirigeant Guillaume le Taciturne. Naturellement, ce nouvel État est particulièrement tolérant, en particulier pour tous ceux qui épousent la nouvelle religion calviniste. Et naturellement, eh bien, pour sauver leur vie, les calvinistes de la partie méridionale des Pays-Bas, ce qu'on appelle alors les Pays-Bas espagnols, eh bien, tout simplement, pour échapper à la guerre, pour échapper à la répression, s'en aller vers les Pays-Bas, donc le royaume des Hollandais. Alors les Hollandais, évidemment, eux, c'était un peuple commerçant, très entreprenant. Ils ont eu la chance aussi que cette révolte de plus de 80 ans n'a pas trop touché la partie nord des Pays-Bas, puisque c'est surtout la partie méridionale qui a été secouée par tous ces conflits. Et donc, ils ont, Dieu merci, n'ont pas eu de trop de dégâts chez eux. Et on va appeler d'ailleurs cette période le siècle d'or hollandais. Les Hollandais, donc, ils veulent faire un petit peu comme la République de Venise, comme Gênes. Ils vont créer, grâce à la Compagnie des Indes, un réseau commercial, des comptoirs à travers le monde, et en particulier, ils vont créer donc un comptoir au Cap, donc en Afrique du Sud. Et c'est un certain Jan van Riebeeck qui va installer et construire ce premier comptoir, ce comptoir commercial qui se trouve donc sur la route des Indes. À l'époque, il n'y a pas encore le canal de Suez, donc il n'y a pas d'autre solution que de contourner l'Afrique. Et ces comptoirs, naturellement, permettent des échanges commerciaux, mais aussi, bien sûr, de permettre de ravitailler les bateaux, de les réparer, car la route est longue entre Amsterdam et le Cap. Et malheureusement, d'ailleurs, de temps en temps, eh bien, les bateaux peuvent disparaître en mer, comme aussi on n'arrive pas toujours en bon état jusqu'au Cap. Naturellement, l'afflux dans les Pays-Bas de tous ces flamands du Sud, en particulier de notre région Flandre française, eh bien, qu'en faire? Car ce sont quand même des gens qui arrivent donc aux Pays-Bas. Évidemment, ce sont souvent les plus aisés qui peuvent partir, et ils partent non seulement avec leur argent, mais aussi avec leur savoir-faire, avec leur technique. Donc c'est des gens qui sont plutôt, disons, entreprenants, des gens intéressants pour le commerce, pour l'industrie. Et les Hollandais, eh bien, ils vont décider tout simplement ils vont proposer à ces gens, eh bien, de s'installer donc en Afrique du Sud, en leur octroyant des terres à cultiver.
Mijn vriend,
Elbers, vous interprétez Meirouille Kamerhet, mon bon camarade. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande.
Et aujourd'hui, nous consacrons donc cette émission à l'Afrikaans et aux Afrikaners qui sont si proches de nous et sont nombreux. D'ailleurs, quand on regarde l'annuaire téléphonique, eh bien, porte des noms que l'on retrouve bien sûr dans notre Flandre française. C'est que beaucoup de Flamands de notre région ont dû fuir la répression donc menée par le Royaume d'Espagne pour sauver bien sûr leur vie parce qu'ils avaient tout simplement épousé la religion réformée, le calvinisme. En France, cela ne va guère mieux pour les calvinistes puisque Louis XIV, lui, eh bien, en octobre 1685, eh bien, tout simplement, il va révoquer l'édit de Nantes. C'est la chasse qui est ouverte contre les protestants et évidemment ces personnes-là eh bien, feront comme nous les Flamands, ils vont fuir la répression. Beaucoup s'en vont vers l'Allemagne du Nord, d'autres eh bien, vont partir vers les Pays-Bas qui sont plutôt les. Ce sont les fameux huguenots. Alors évidemment, les Hollandais sont bien contents de trouver ces gens, là encore, qui arrivent avec leur savoir, leur maîtrise de métier. Et les Hollandais qui ont remarqué en particulier que les terres du Cap eh bien, sont riches et sont fertiles, eh bien, ils vont tout simplement inviter donc, ces huguenots français à venir avec leur savoir-faire des vignobles, les cèpes, et donc on va avoir d'ailleurs des vins d'origine donc de France qui vont être plantés donc en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, eh bien, on peut encore, bien sûr, retrouver ces cépages qui sont d'origine française, mais qui sont de belle qualité, de grande qualité, et qui font le plaisir de table et de boire, bien sûr, avec modération, cela va sans dire. Les Hollandais, donc, ce sont des gens très pragmatiques, et donc, ils envoient de plus en plus de personnes pour, eh bien, tout simplement, coloniser les nouvelles terres du Cap. Se pose bien sûr la question de la langue, puisque les huguenots français parlent la langue française, mais il y a aussi un apport important, en particulier d'Allemands de la région de Bavière, qui elle est très catholique et ne voit pas d'un bon œil, elle non plus, l'arrivée des luthériens. Eh bien, comme la langue dominante étant le néerlandais, petit à petit, eh bien, les huguenots français vont renoncer à leur langue et vont donc intégrer le néerlandais. Mais naturellement, comme tout brassage de langue, eh bien, on peut retrouver dans l'Afrikaans, bien sûr, des mots bien sûr, d'origine française comme d'origine allemande, ce qui va donner cette particularité de la langue Afrikaans. Et d'ailleurs, parmi les Afrikaners, on retrouve bien sûr des noms typiquement français, comme on trouve des noms d'origine scandinave et allemand. Alors évidemment, ces nouveaux arrivants qui arrivent sur une terre qui est en fait eh bien, pas très peuplée et donc ils ne rencontrent pas d'hostilité des populations locales, ce sont des tout petits villages et ils avancent petit à petit pour conquérir de plus en plus de terres. Le gouverneur d'ailleurs Van der Stel réserve des terres pour les nouveaux arrivants afin de valoriser bien sûr cette nouvelle terre de l'Afrique du Sud.
Maïsien, oublie Warren, al zal recht kom. William,
ja pa.
Laat je nooit verdwijnen, Afrikanen.
Je mag niks meer zeggen, is klaar gepraat. Het is een hartseer zaak wat ons allemaal raakt. Want die groot verraad komt vanuit ons eie mense. Want die eens keer die woorde van een ander op en gebruik dit net vir sy eie lot. En hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander, die wiel sal eendag draai.
Sing, Afrika. Afrikaners, passen.
En het lijkt dan ver, maar is voor jou deur. Kan jy sien hoe die wolven mekaar verskeer? En daar's niks, my vriend, niks wat dit kan keer nie. Van die dag sal kom dat die koning val, en ek plek moet maak vir 'n generaal, wat hom uit oorlê met sy eie mense. Alles moet verander, die wiel sal een dag draai.
Afrikaner, sing, laat je stem gehoor word, laat je nooit verdwijn. Oh, sing, Afrikaner, sing, als we samen al hier word, kan onze stilte breek. Afrikaner, sing.
Verander, is het klaar te laat?
Sing, Afrikaner, sing, laat je stem gehoor word, laat je nooit verdwijn. Oh, sing, Afrikaner, sing, als we samen op hier word, kan ons een stilte breken. Afrikaner, sing, laat je stem gehoor word, laat je nooit verdwijn. Oh, sing, Afrikaner, sing, als we samen op hier word, kan onze stilte breek. Afrikaner, sing.
Van Clerc, vous interprétez Sing, Afrikaner, Sing, chante Afrikaner. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et aujourd'hui, donc, dans cette émission, nous vous emmenons donc à plusieurs milliers de kilomètres de notre Flandre, tout simplement donc en Afrique du Sud, pour découvrir eh bien, ces lointains cousins que sont les Afrikaners. Ils ont été, bien sûr, sont nombreux, sont les descendants donc de ces Flamands de chez nous, qui fuyant la répression donc de Philippe II d'Espagne, eh bien, ont colonisé petit à petit cette terre d'Afrique du Sud. Et ils ont été, bien sûr, aidés aussi par l'arrivée de huguenots français. À un tel point, d'ailleurs, c'est que il y a une zone en Afrique du Sud qu'on appelle le French Hook, hein, le coin des Français. Alors naturellement, on aurait pu croire que eh bien, les Français ils allaient petit à petit peut-être imposer ou en tout cas maintenir leur langue. Ce ne fut pas le cas. D'ailleurs, le gouverneur de l'époque a mené quand même une politique d'assimilation assez importante de façon à rendre un peu homogène donc, l'arrivée de tous ces migrants qui vont coloniser donc, cette partie d'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, eh bien, comme je disais tout à l'heure, eh bien, on trouve encore des noms français et qui, bien sûr, s'expriment en Afrikaans. Les Pays-Bas espagnols, dont faisait partie la Flandre française, continuent, bien sûr, à mener une politique de répression de plus en plus sanglante, si bien que les Flamands sont de plus en plus nombreux à quitter notre région pour s'installer là-bas en Afrique du Sud, parce qu'on leur promet bien sûr un sort meilleur et surtout de la possibilité de travailler en sécurité. Ces réfugiés flamands donc vont grossir cette colonie d'Afrikaners, et naturellement venant de plus en plus nombreux, eh bien, il leur faut de plus en plus de terres. Et c'est ainsi que, ils vont commencer à avancer un peu plus en profondeur dans le pays. Mais là, ils vont rencontrer un peu plus d'hostilité, et en particulier devant un peuple, les fameux Zoulous. Les Zoulous qui, eux, c'est un peu comme les Indiens d'Amérique. Naturellement, ils voient d'un mauvais œil l'arrivée de tous ces Blancs. qui veulent leur prendre leur terre, et c'est naturellement qu'ils se révoltent, bien sûr, et on commence bien sûr à avoir des affrontements sanglants entre les deux peuples, entre les Afrikaners et les Zoulous en particulier.
Die nacht lee ons een donkere wacht. En die modder en bloed lee mij plaats tot koele verbrand, zodat hij ons kan vangen binnen mij.
De la Rijn, generaal,
en die kransen lee hier tegen ons rug. Alle tijd is voorbij, maar die hart van een boek van die West Transvaal.
De la Rey, de la Rey, zal jij die boeren kom leiden? De la Rey, de la Rey, generaal, generaal, Zimman zal ons om jou vallen.
Wat weer op zal staan.
Mais j'écoute Radio Plus sur 104.3.
Et donc, nous évoquons lors de cette émission les Afrikaners, ces lointains cousins de notre Flandre. Nous sommes en début du 19e siècle arrivent de plus en plus au Cap des migrants nouveaux, des Britanniques en particulier. Et cette ville de Cap devient une mégapole citadine. Et évidemment, ça ne correspond pas vraiment aux valeurs des Afrikaners qui sont plus attachés aux valeurs rurales et leur, bien sûr, la défense de leur langue, l'Afrikaans, mais aussi ils sont très attachés à la religion, le calvinisme. Si bien que commence en 1835 ce qu'on va appeler le Grand Trek, l'exode des Afrikaners qui vont partir donc vers l'est du pays pour tout simplement préserver leurs valeurs fondamentales. Le Grand Trek, c'est la volonté donc des bourgs, des paysans, à prendre leur indépendance par rapport à cette ville du Cap, dont ils ne retrouvent plus vraiment les valeurs qui sont les leurs. Et donc, ça va faire partie, donc, ce Grand Trek, un petit peu, de la mythologie fondatrice du peuple Afrikaner. Cette migration fut d'autant plus aisée, d'ailleurs, que les terres conquises sont faiblement peuplées, ne rencontrent pas beaucoup d'hostilité des populations locales. Le peuple bourg voit donc l'arrivée de ces Britanniques d'un très mauvais œil et ils chargent leurs chariots, ces chariots tirés par des bœufs. Et la plupart du temps, donc d'ailleurs, on va illustrer ce Grand Trek par ces chariots qui vont leur servir à la fois de maison, lors d'attaques de protection. C'est un petit peu les images qu'on peut retrouver avec le Grand Far West un petit peu. Alors les bourgs, bien sûr, si au début ne rencontrent pas beaucoup d'hostilité du fait de la faible densité de population. Néanmoins, quand ils arrivent un peu plus à l'est, ils vont rencontrer donc le fameux peuple des Zoulous. C'est un peuple guerrier qui, d'ailleurs, n'hésite pas à envahir et à annexer et à soumettre les peuples voisins. C'est un peuple important qui maîtrise une grande partie du territoire. Alors les premiers pionniers bourgs sont malheureusement donc massacrés par ces Zoulous. Les bourgs, bien sûr, ne vont pas se laisser faire, évidemment. Ils vont réagir et ils vont donc mener une bataille contre les Zoulous. Comme ils sont un peu mieux armés, ils vont réussir à vaincre ce peuple Zoulou. Mais les Zoulous sont bien sûr des adversaires redoutables. Un autre adversaire plus dangereux encore pour les Afrikaners, ce sont les Anglais. Car les Anglais, veulent maîtriser un peu partout, étendre leur empire. Ils voient d'un mauvais œil, parce qu'ils sont aussi de plus en plus nombreux. Il y a un renversement d'ailleurs de rapports de population. Ils voient d'un mauvais œil cette République du Transvaal qui a été créée en 1852. Et évidemment, les Anglais vont chercher, bien sûr, à remettre, à annexer, à soumettre les Afrikaners. Mais les Afrikaners, bien sûr, ne sont pas décidés non plus à se laisser soumettre par les autorités britanniques. Les bourgs, donc, vont commencer à s'armer, à se défendre pour, bien sûr, préserver leur identité et leur art de vivre.
Mijn land, dat zijn oneindige lachten, met hemels van trillend overlegd, met regen en wind en jagende wolken, mijn blote land met zijn eindeloos zicht. Mijn land zijn de stormen laat in oktober, met meeuwen verschrikt van de zee weggevlucht. Een donker dak is de hemel in november, met trage reigers in de klamme lucht. Mijn land is een oude, droevige historie. Het gevecht voor de boterham was hier niet genoeg. Of zie de grote oorlog vergeten, die duizenden jongens hier den dood en joeg. Mijn land is het lied van de nozele kinders, van scherpe kogels genees je niet. In Frankrijk, in Duitsland en in Groot-Brittannië staan droge bergen van verdriet. In Frankrijk, in Duitsland en in Groot-Brittannië staan droge bergen van verdriet. Land is de glimmende brunnen van de aarde, die in de maand mei van groen is bedekt. Vorige gewesten liggen hier de mersen, langs grachten en beken vooruit gestrekt. Mijn land tussen de zee en de bergen, mijn weelderig zomers, polderland, mijn straten, mijn dorpen en mijn boerenmensen. Mijn westhoek, mijn oor op Vlaanderland. Mijn straten en dorpen en mijn boerenmensen. Mijn westhoek, mijn oor op Vlaanderland. Mijn land als ze mijn ontembare dromen, mijn krabbels, mijn dichtjes, mijn fantasie, mijn platen en boeken en mijn verre vrienden. In een land zonder liedjes, daar weun ik niet. Mijn land, mijn lief, mijn vader en mijn moeder. Mijn land, mijn kinders, voor de eeuwigheid. Mijn land, mijn lucht, mijn water en wolken. Mijn land, mijn aarde, gebenedijd. Mijn land, mijn lucht, mijn water en wolken. Mijn land, mijn aarde, gebenedijd.
Fermander, vous interprétez Mainland, mon pays, ma terre. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et vous pouvez aussi écouter l'émission bien sûr sur le site de la radio www.radioplus.fr. Et aujourd'hui, nous évoquons donc les Afrikaners, en particulier donc ces cousins lointains donc de notre Flandre. En 1880, eh bien, les Britanniques, ils arrivent de plus en plus nombreux sur ce territoire, eh bien, naturellement, ayant cette politique de conquête, aimeraient bien annexer le Transvaal, mais les Boers, bien sûr, ne vont pas se laisser faire. Malheureusement, une terrible découverte, en tout cas malheureusement pour les Afrikaners, c'est la découverte de mines d'or et de diamants en 1887. Qui vont attirer bien sûr de nombreuses convoitises et en particulier de très nombreux Anglais vont venir immigrer pour bien sûr essayer de trouver de l'or, des diamants, avoir de la richesse. Naturellement, les Boers ont d'autres valeurs et ils veulent préserver bien sûr leur pays, leur indépendance. Et le président du Transvaal, Paul Kruger, y pressent bien sûr de grands malheurs. Cette ruée vers l'or de milieu de chercheurs eh bien, va entraîner ce qu'on va appeler la deuxième guerre des Boers. Les Afrikaners voient donc cette arrivée massive d'Anglais d'un très mauvais œil et ils cherchent au départ, pour freiner leur arrivée, à les taxer au maximum. Bien sûr, c'est le prétexte pour que l'armée anglaise intervienne. Ce qui va déclencher, qui va mettre le feu aux poudres, c'est l'assassinat d'un ressortissant britannique par un policier bourg, et qui va déclencher cette guerre qui est déclarée en octobre 1899. Au départ, eh bien, les bourgs, qui connaissent bien leur pays, bien sûr, vont remporter de nombreuses victoires. Et ils connaissent bien donc le terrain, les Anglais subissent de nombreuses pertes, et ils font d'ailleurs prisonnier un certain Winston Churchill. Les Anglais, néanmoins, vont pas se laisser faire, hein. Ils vont appeler de plus en plus de renforts. Londres est ému par les échecs de ses troupes, par ses fameux bourgs, et donc envoie de plus en plus de troupes pour, bien sûr, mater ces bourgs qui ne veulent pas se laisser soumettre. Il y aura une terrible bataille, en particulier la bataille de Bosworth, où les Anglais exterminent purement simplement les bourgs, pas de prisonniers. Les Anglais vont conquérir les capitales du Transvaal, ainsi que l'État libre d'Orange. On pensait que la guerre était finie, mais les bourgs décident alors de mener une guerre non plus frontale, mais mener une guérilla. Une guérilla qui d'ailleurs va connaître au départ un vrai succès. Les Britanniques sont agacés, comme on peut l'imaginer, et ils décident alors une politique terrible, c'est la politique de la terre brûlée. Toutes les fermes qui appartiennent aux bourgs sont systématiquement brûlées, détruites. On détruit les réserves de nourriture, on déporte les fermiers dans des camps. C'est ainsi qu'ils ont détruit plus de 30 000 fermes. On a déporté plus de 120 000 bourgs, femmes, enfants, ainsi que aussi de 120 000 Noirs qui ont été mis dans des camps de concentration. Ces terribles camps de concentration qui vont en faire de très nombreuses victimes. Il manque totalement de nourriture, l'hygiène elle est inexistante, et on compte plusieurs milliers d'enfants de moins de 16 ans qui vont mourir de faim et de dysenterie. C'est terrible, il y aura quand même quelques personnalités britanniques qui vont s'émouvoir du sort terrible de ces bourgs, mais il est déjà beaucoup de victimes, on déplore beaucoup de victimes. Et la guerre va prendre fin seulement en mai 1902. Le président Paul Kruger, bien sûr, était venu en France pour demander de l'aide. Et d'ailleurs, on raconte que quand il s'est présenté au Parlement français, c'est un député de Flandre française, d'Hazebrouck, l'abbé Lemire, qui aurait servi d'interprète. Mais la France ne fit rien. Ainsi, donc, aujourd'hui, le Transvaal a regagné son autonomie. Mais naturellement, la politique a suivi son cours. Il faudrait une deuxième émission, bien sûr, pour poursuivre cette riche histoire du Transvaal, des Afrikaners, donc nos lointains cousins. L'émission touche à sa fin. Nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Plus.